Anne Verdaguer pour le Journal des Amériques et d'Haïti. Bonjour Anne.
Bonjour Joanne, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, en Haïti, la chute de la monnaie, la gourde pèse sur l'économie, une situation due à la crise sanitaire. On fera le point dans un instant avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron. On va parler également de la propagation du virus en Amérique latine. Le Brésil a passé la barre des 50 000 morts. Marie Normand nous parlera de la situation notamment au Canada et au Honduras. Dans la revue de presse, toujours, on parlera de la mobilisation contre le racisme qui se poursuit aux États-Unis. Et puis Tiziana Maron évoquera avec nous la situation en Guyane qui souffre toujours d'un nombre de cas élevé de personnes contaminées au coronavirus.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
L'impact économique de la pandémie de coronavirus continue donc de se faire sentir dans tous les pays du monde et en Haïti, si l'impact est mesuré en comparaison avec les autres pays voisins de la Caraïbe qui vivent largement du tourisme, la dévaluation de la monnaie locale commence à peser sur l'économie, le ralentissement des échanges aggrave la situation déjà critique du marché haïtien et la récession s'accélère. La Banque centrale veut agir, mais ces mesures risquent de ne pas suffire. Un dossier signé notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron.
Légalement, il n'y a qu'une seule monnaie en cours en Haïti et toutes les transactions en espèces doivent être effectuées en gourde. Dans les faits, le dollar américain s'échange quotidiennement et chacun scrute régulièrement le taux de change. Ce taux, justement, est le premier indicateur de la santé de l'économie nationale et son plongeon fait paniquer tout le monde. Il y a 5 ans, 1 dollar s'échangeait contre 50 gourdes. Il y a 2 ans, en juin 2018, le taux était encore de 1 pour 65. Aujourd'hui, la Banque centrale fixe le taux à 1 pour 113. Mais là encore, il y a la règle et la réalité. Ce taux de référence n'est quasiment appliqué nulle part. Chacun décide de son propre taux. En toute illégalité, mais en toute transparence, les commerces affichent le taux que eux appliquent, toujours à la défaveur des clients. À Port-au-Prince, certains pratiquent déjà le taux de change à 1 dollar pour 120 gourdes. Jean Badane-Dubois, le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, a déclaré avoir pleinement conscience de cette situation de crise.
Les mesures que nous allons prendre sont certainement des mesures qui vont dans le bon sens, dans le sens de la stabilité du taux de change. Tous les dollars qui circulent de façon informelle ne sont par définition pas sous contrôle de la Banque centrale. Une trop grande partie du marché d'échange évolue dans l'informel et donc sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Une série de personnes tient le secteur en otage et eux sont aujourd'hui les faiseurs de prix.
Prendre des mesures est devenu une obligation pour la Banque centrale parce que la crise du Covid-19 est venue ajouter une difficulté à cette situation déjà hors de contrôle. Étant donné que la gourde perd sans cesse de la valeur, les Haïtiens préfèrent épargner en dollars américains, sur leur compte en banque, mais aussi en espèces. Conséquence, aujourd'hui, physiquement, les billets verts se font rares car il n'y a plus aujourd'hui les Haïtiens de la diaspora à entrer dans le pays avec de l'argent liquide. Et la taxe que tout étranger non résident devait payer à son arrivée à l'aéroport, 10 dollars américains à payer en espèces, là aussi ce flux de monnaie papier est réduit à zéro. Première mesure décidée donc par la Banque de la République d'Haïti, les transferts d'argent reçus de l'étranger devront obligatoirement être versés aux clients en gourde, et cela même si leur proche a payé en dollars ou en euros. Cette décision est lourde de conséquences parce que vu la dévaluation de la gourde, les sommes envoyées vont donc rapidement perdre de la valeur dans les mains des citoyens haïtiens. Ce sont les maisons de transfert qui vont bénéficier de cette mesure. De toute façon, pour l'économiste Kessner Farrell, freiner la chute de la gourde par rapport au dollar ne peut pas s'opérer par une simple décision de la Banque centrale.
Tant qu'on n'aura pas la capacité d'attirer des dollars par les différents moyens d'exportation, investissement direct étranger, le tourisme et également avec tout le désordre que l'on connaît au niveau des finances publiques, beaucoup de gourdes en circulation par rapport à la quantité de dollars, la spéculation sera toujours là. Quand tant qu'il y aura les déséquilibres macroéconomiques, ce sera difficile de stabiliser le marché local d'échange.
Et ce déséquilibre persiste car Haïti ne produit pas suffisamment et consomme donc majoritairement des produits étrangers importés en dollars. L'an dernier, le pays a exporté pour environ 1 milliard de dollars de biens quand les importations ont, elles, dépassé les 4 milliards. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Le coronavirus qui continue aussi de frapper durement l'Amérique latine. Le Brésil a dépassé la barre des 50 000 morts, je vous le disais. Au Canada, le Québec entre officiellement dans la dernière phase de son déconfinement. Bonjour Marie-Normand.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la revue de presse des Amériques, avec vous, les rassemblements de 50 personnes maximum en intérieur sont maintenant autorisés au Canada, ce qui signifie la réouverture des salles de cinéma, des lieux de culte, des piscines, des gymnases. Et pourtant, Marie, plusieurs foyers de Covid-19 ont été détectés dans des fermes du Québec.
Oui, ce sont, selon le journal Le Devoir, près d'une cinquantaine de travailleurs agricoles temporaires qui ont été infectés dans plusieurs régions depuis le début de la pandémie. Et ces travailleurs testés positifs sont souvent étrangers. Il y a notamment des Mexicains, des Guatémaltèques. Ils sont nombreux à venir travailler dans les fermes québécoises à la saison. En moyenne, par exemple, près de 10 000 Mexicains chaque année. Contrôle renforcé, bien sûr, en temps de pandémie. La plupart des producteurs agricoles manquent donc de main-d'œuvre, car un tiers de ces travailleurs, selon le journal, n'ont pas pu obtenir de permis de travail cette année. Ceux qui sont arrivés au Canada ont suivi d'ailleurs un protocole très strict, raconte le journal Express. 9 travailleurs venus du Guatemala ont par exemple été placés en quarantaine dans une maison spécialement aménagée pour eux à Saint-Cyril avant de rejoindre la ferme qui les emploie. Et leur mission, ce sera de planter 25 000 boutures de plants de chanvre les 6 prochains mois.
Au Honduras, le président appelle à l'unité face au coronavirus.
Et il le fait depuis son lit d'hôpital, Anne, puisqu'il est lui-même touché par la maladie. Juan Orlando Hernandez est soigné depuis plusieurs jours, rappelle la Prensa, à l'hôpital militaire de Tegucigalpa. Et la capitale du Honduras a désormais dépassé San Pedro Sula, capitale économique en nombre de cas. Plus de 1300 personnes testées positives en 4 jours seulement. Cette augmentation a poussé les autorités à faire marche arrière, note El Heraldo, à suspendre donc le début de réouverture de l'économie qui était prévue pourtant cette semaine.
Le Covid-19, Marie, qui pourrait signer l'arrêt de mort des maisons de thé en Argentine.
Oui, ces célèbres maisons qui servent des pâtisseries à Gaiman dans la vallée de Chubut, des établissements qui datent de la colonisation des Gallois en Patagonie, apprend-on, célèbres surtout depuis que Lady Di s'y est arrêtée en 1995 lors de sa visite en Argentine. 5000 touristes en haute saison, rien que dans cet établissement fréquenté par la princesse, explique le quotidien Clarine aujourd'hui. Mais voilà, depuis 3 mois, en raison du confinement, plus aucun revenu. Nous avons 20 employés, il n'y a pas moyen de continuer, explique le gérant de cette célèbre maison de thé. Et il estime que la reprise va prendre trop de temps. Il envisage de fermer de manière définitive, comme d'ailleurs d'autres établissements de cette zone.
On part aux États-Unis à présent, où c'est un livre explosif qui s'apprête à sortir demain, intitulé « La pièce où cela s'est passé », cet ouvrage de l'ex-conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton, limogé en septembre dernier, revient sur ses 17 mois passés auprès de Donald Trump et s'avère extrêmement critique sur la capacité du président américain à gérer le pays. John Bolton était l'invité hier soir de la chaîne américaine ABC. Il y a défendu son point de vue et notamment maintenu que l'actuel président est un danger pour les États-Unis. À New York, le récit de Loubna Anaki.
Sur la chaîne américaine ABC, John Bolton réaffirme les révélations extraites de son livre, à commencer par la personnalité jugée instable de Donald Trump.
Je ne pense pas qu'il soit apte. Je ne crois pas qu'il ait les compétences pour la fonction.
L'ancien conseiller à la sécurité nationale revient également sur les relations diplomatiques et les rencontres de Donald Trump, notamment avec Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Pour John Bolton, le président américain est incapable de conclure des accords en faveur du pays.
Donald Trump est peut-être un bon négociateur quand il s'agit d'immobilier à Manhattan, mais quand vous êtes face à quelqu'un comme Poutine, c'est différent. C'est une position très délicate pour les États-Unis.
Et quand la journaliste lui demande pourquoi il a refusé de témoigner lors du procès en destitution du président pour au final tout raconter dans un livre, John Bolton estime que la procédure menée par les démocrates de la Chambre des représentants n'était pas totalement impartiale. Il se défend de toute motivation financière et dit avoir écrit son livre pour rendre service à la nation.
Peu importe mes motivations, quel meilleur moment qu'une campagne présidentielle pour voir la personnalité des candidats.
John Bolton conclut en disant qu'il ne votera pas pour Donald Trump en novembre prochain et que cela serait, je cite, une catastrophe s'il était réélu pour un second mandat. Loubna Anaki, New York, RFI.
Marie Normand, on vous retrouve aux États-Unis, toujours le championnat automobile NASCAR est sous le choc.
Et oui, Darrell Bubba Wallace Jr., le seul pilote noir de NASCAR, a trouvé une corde de pendu accrochée dans son garage sur le circuit de Talladega en Alabama. Et le championnat de NASCAR a annoncé ouvrir une enquête pour acte de haine. Ce pilote, rappelle USA Today, a joué un rôle essentiel dans l'engagement récent du championnat dans la lutte contre le racisme et l'injustice. Il avait notamment réussi il y a 2 semaines à faire interdire le drapeau confédéré dans toutes les manifestations. C'est l'ancien drapeau, vous le savez, des sudistes qui défendaient l'esclavage pendant la guerre de sécession. Drapeau qui reste populaire dans le sud aujourd'hui et qui sont d'ailleurs toujours en vente libre juste en face du circuit, note le Chicago Sun-Times. Cette interdiction a provoqué quelques manifestations ce week-end, des files de pick-up arborant fièrement ce drapeau aux abords du circuit de Talladega. Et dimanche, c'est un avion qui a traîné derrière lui un immense drapeau au-dessus du circuit avec le slogan « Couper les vivres à NASCAR ».
Et à noter également, Marie, le retrait d'une statue équestre de Theodore Roosevelt à New York.
Et elle trônait depuis 1940 devant le musée d'histoire naturelle à l'entrée ouest de Central Park, explique le New York Times. Une statue de bronze qui représente l'ancien président américain, donc sur son cheval et flanquée de 2 personnages qui, eux, sont à pied, un Amérindien et un Africain. Et c'est en raison de cette composition hiérarchique que la statue sera retirée, explique la directrice du musée. Cela fait plusieurs années déjà que ce bronze crée la controverse, mais la décision du musée fait bien sûr suite à l'affaire George Floyd. Décision importante, souligne le New York Times, car ces dernières semaines, les appels au retrait de statues étaient plutôt lancés par des manifestants qui les jugeaient offensantes. Là, la décision est prise par un musée qui, comme d'autres, avait avant défendu et préservé ces portraits, ces statues en tant que vestiges de leur époque, et qui, bien que répréhensibles, pourraient peut-être servir à des fins d'éducation. C'est ce que pense le New York Times.
Merci beaucoup, Marie Normand, pour cette revue de presse des Amériques. Et on part à présent au Québec, où les adolescents qui terminent le collège dans quelques jours ont l'impression d'être les grands oubliés de la crise sanitaire. Leur scolarité se passe à la maison depuis la mi-mars, mais surtout ceux et celles qui sont en dernière année de secondaire ne peuvent pas participer au traditionnel bal de fin d'études et à la remise de leur diplôme. Après plusieurs pétitions et textes partagés sur les réseaux sociaux, de nombreux collèges ont mis en place des cérémonies alternatives depuis quelques jours. Pascal Guéricola à Montréal.
Depuis plus d'une décennie, la fin de l'école secondaire constitue un véritable rite de passage pour les adolescents du Québec et du Canada, dans une société qui en manque cruellement. Certaines jeunes filles cherchent même leur robe de bal dès le mois de septembre. Rien de tout ça cette année. Cette absence de cérémonie a révolté Lauriane Bois, 17 ans, qui a écrit à son directeur.
On se dit vraiment qu'on est la génération oubliée un peu. On pouvait pas voir nos amis, on pouvait pas aller à notre école, dire au revoir nos profs. Il y a beaucoup d'élèves qui se sont levés, qui ont parlé, qui ont fait des pétitions, qui ont envoyé des messages au ministre. Donc tout ça, ça m'a permis à notre petite génération de secondaire 5 de se lever, de parler, puis dire on ne restera pas là sans rien dire. On veut faire bouger les choses.
Un peu partout, les écoles secondaires ont répondu à l'appel des élèves. Elles rivalisent d'imagination pour les accueillir selon les règles sanitaires actuelles. Certaines organisent des cérémonies dehors, d'autres, comme à l'école Boudreau à Québec, ont convoqué les élèves en petits groupes pour leur remettre leur diplôme.
Mesdames et messieurs, bien vouloir accueillir chaleureusement notre finissant, c'est pour l'islam!
Seyful Islam, un réfugié Rohingya arrivé avec sa famille il y a 12 ans, apprécie les attentions du personnel de l'école.
Ça représente beaucoup, parce que moi je viens de loin, je travaillais beaucoup. Je travaillais chaque année, je faisais des efforts. Enfin, j'ai réussi à atteindre un objectif dans ma vie, avoir le diplôme d'études secondaires.
Ce diplôme a une importance particulière pour les élèves de l'école Boudreau, que fréquentent des jeunes qui ont eu beaucoup de difficultés scolaires. La directrice, Josée Tremblay.
C'est beau de les voir. C'est beau de les voir parce qu'ils sont contents d'être là. Nos élèves finissants, il faut comprendre qu'ils ont passé à travers un parcours parfois difficile, parfois chaotique, parfois long. Et être finissant pour eux, c'était vraiment un signe d'accomplissement. On a beaucoup de parents qui se déplacent, qui accompagnent leurs jeunes. On a permis cette possibilité-là.
Émue, cette mère d'élève a du mal à retenir ses larmes.
Elle pensait pas y arriver. C'est elle qui a finalement fait un retour à l'école puis a excellé jusqu'à la fin. Pour une élève qui est en difficulté avant de stopper ses études à l'école régulière. C'est une belle fierté.
Oh wow. J'ai une photo. Oh my God, c'est moi.
À quelques kilomètres de là, un groupe de copines découvre dans le couloir de l'école secondaire François-Joseph Perroux leurs photos. Les profs les ont collées sur leurs anciens casiers. Musique, décoration, tapis rouge, ils n'ont pas lésiné pour leur offrir un dernier au revoir.
2015-2020, soyez fiers de vous. Vous avez terminé votre parcours. On vous applaudit.
On ne s'attendait vraiment pas à ça. Ils ont vraiment comme organisé genre une espèce de petite soirée qui compense le manque de notre graduation en soi. Fait que c'est vraiment apprécié.
Pour ces élèves partis en voyage scolaire en mars dernier, la fin de l'école a été particulièrement brutale.
C'était un peu bizarre de quitter l'école comme ça, puis en sachant qu'on n'allait jamais revenir. C'était un peu bizarre de finir juste « OK, vas-y, fais ton Zoom, puis fais des travaux en ligne, puis c'est ça. » Il fallait que ça finisse genre d'une bonne manière, puis ça, je pense que c'était vraiment le fun que les profs aient organisé ça, que c'est le fun.
Des cérémonies semblables ont lieu un peu partout au Canada jusqu'à fin juin. Pascale Guéricola, Québec, RFI.
L'actualité des Outre-mer à présent avec Tiziana Maron. Bonjour Tiziana.
Bonjour Anne.
À la une, aujourd'hui on va parler avec vous de la situation en Guyane où l'épidémie de Covid-19 ne cesse de progresser.
Oui, 278 nouveaux cas enregistrés, ce qui porte à 2441 le nombre de contagions depuis le début de l'épidémie. Un septième décès hier après-midi à l'hôpital de Kourou. Le préfet de Guyane, Marc Delgrande, a renforcé le couvre-feu dans la ville spatiale. Ce week-end, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé un renfort des moyens humains et logistiques et avancé l'hypothèse de reconfinement de la Guyane si l'accélération de l'épidémie se confirme. Sébastien Laporte de Guyane La Première.
La propagation du Covid-19 connaît une brusque accélération en Guyane depuis 10 jours, expliquent les services du Premier ministre. Dès aujourd'hui, 17 soignants supplémentaires de la réserve sanitaire nationale arrivent en Guyane pour conforter les équipes actuelles de réanimation. Et d'autres équipes soignantes, en particulier de l'APHP, vont être projetées à partir de cette semaine. Plus globalement, le gouvernement annonce la poursuite d'opérations d'information et de dépistage, ainsi que la distribution de masques. En ce qui concerne les transports aériens, les passagers au départ de Cayenne vers l'Hexagone seront invités à intégrer le protocole des cas contacts afin de pouvoir réaliser un test à l'arrivée et être suivis par les services de santé. Enfin, Matignon prévient, si les signes d'une accélération de la circulation du virus se maintiennent, l'hypothèse d'un reconfinement de la Guyane devra être réexaminée.
Et dans ce contexte, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est attendue demain à Cayenne pour 2 jours. Et vu la situation épidémique, seuls les passagers en provenance de la Guyane devront désormais justifier leur déplacement vers les Antilles. À partir de ce 22 juin, les vols reprennent entre l'Hexagone et les Antilles et les passagers n'auront plus à justifier leur déplacement. Fini également les limitations de voyageurs dans les avions. Les tests et la septaine sont en revanche maintenus. La voix de l'eurodéputée guadeloupéenne Maxette Pirbacas, élue du Rassemblement national contre la résolution reconnaissant la traite négrière comme un crime contre l'humanité. Cela a enflammé la toile. Le vote historique a eu lieu vendredi dernier à Bruxelles. Les détails de Franck Aristide de Guadeloupe La Première.
Un vote contre qui a profondément heurté la toile. Comme les autres membres de son mouvement d'extrême droite, la députée européenne guadeloupéenne s'est prononcée contre la proposition de résolution antiraciste qui condamne la mort effroyable de George Floyd et déplore la rhétorique incendiaire du président Donald Trump. Pour justifier son choix, dans un communiqué, le Rassemblement national affirme ne pas vouloir s'inscrire dans un débat de politique intérieure américaine. Problème, dans son article 12, la résolution en question contient aussi un volet qui concerne bel et bien les Antillais, puisqu'il vise à reconnaître au niveau européen l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et à scruter une nouvelle fois les résultats du vote du Parlement, Maxette Pirbacas s'est également prononcée contre cet amendement déposé par le député réunionnais Younous Omarji. Le représentant local du Rassemblement national explique que la députée guadeloupéenne n'était pas présente sur les bancs de l'hémicycle lors du vote. De notre côté, nous avons tenté sans succès de joindre Maxette Pirbacas.
Merci Tiziana Maron.